Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Un anneau pour les gouverner tous.
Luke Skywalker and Han Solo rescued the princess, destroyed the Death Star, but their story didn't end there.
Un anneau pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier.
Pour le politologue américain Samuel Huntington, les grandes divisions au sein de l'humanité et la source principale de conflits sont culturelles. Autrement dit, parce qu'on n'a pas la même culture, on ne peut pas se parler et cela conduit au choc des civilisations, thème de son ouvrage le plus connu. Cette théorie fut le point de départ d'une discussion sur la diversité culturelle au cinéma dans le cadre du Festival méditerranéen de Montpellier, un festival qui met en avant la diversité cinématographique face à l'uniformité de la production hollywoodienne. Le réalisateur-producteur marocain Nabil Ayouch était un invité de cette table ronde, lui qui a mis en place avec d'autres la Commission marocaine pour la diversité culturelle quand le Maroc devait négocier l'accord bilatéral de libre-échange avec les États-Unis. Les USA, qui considèrent que le bien culturel est un bien comme un autre, position cohérente quand on sait qu'Hollywood est une véritable industrie, un vecteur culturel puissant tendant à écraser les productions nationales, excepté dans les pays qui soutiennent leur cinéma par des financements ou des quotas, comme c'est le cas en France. Avec le réalisateur de Alizawa, Prince de la Rue et Whatever Lola Wants, nous allons parler des enjeux de la diversité culturelle au Maroc et nous lui demanderons même si le piratage et l'échange sur Internet ne contribuent pas à la diversité culturelle. Question provocante quand on sait que Nabil Ayouch a aussi fondé une association de lutte contre le piratage.
La théorie que développe Huntington dans ses bouquins, c'est la fameuse théorie du choc des civilisations qui tendrait à prouver que parce qu'on est différent, parce qu'on a des coutumes, des langues, des traditions, des religions différentes, on n'est pas capable de se parler. En tout cas, ça crée des clivages et ces clivages engendrent ensuite des chocs, des micro-séismes, donc, et puis un grand choc qu'on appelle le choc des civilisations. Moi, je pense, et je ne suis pas le seul, heureusement, à le penser, tous les gens qui se battent et qui encouragent la diversité culturelle, que ce soit en France ou ailleurs, que c'est précisément le contraire, que parce qu'on est différent, parce qu'on a des différences majeures, on a des choses à se dire, à se raconter. Simplement, encore faut-il être capable de se connaître, et pour se connaître, d'aller au-delà des différences des uns et des autres. Et c'est un peu ça les enjeux de la diversité culturelle aujourd'hui. C'est de permettre à toutes les populations, qu'elles soient d'abord de parler d'eux-mêmes, de parler de leur propre culture, là où il y a une culture américaine parfois dominante, voire exclusive dans certains pays, pas seulement d'ailleurs des pays du Sud, même en Europe, vous avez en Angleterre, en certains pays, en Allemagne, par exemple, le cinéma américain, c'est 90% des entrées, ou 95% des entrées. La France, à ce niveau-là, c'est quand même une exception. 40% des entrées nationales qui sont faites par les films français, ça n'existe quasiment nulle part ailleurs, à part en Inde, peut-être.
Et en Corée, peut-être, où ils ont aussi une forme de quota, je crois.
Oui, mais en Corée, c'est en train d'exploser, ça, justement, parce que la force des lobbies, par exemple, est beaucoup moins puissante que l'industrie américaine qui agit, martèle très fort au niveau politique. Donc, ils ont beaucoup plus de mal à tenir qu'en France, par exemple, où le principe de l'exception française est encore non seulement valable, mais en plus, fait des petits. Et c'est un système, le système même de financement des films en France, d'ailleurs je m'étonne qu'il ne soit pas plus copié ailleurs, permet le maintien de cette exception et donc encourage la diversité culturelle. Et les enjeux aujourd'hui, ils sont là. C'est de permettre à des peuples qui sont plus fragiles, comme les pays du Sud par exemple, de maintenir leur industrie vivace pour permettre à des créateurs du cinéma ou d'autres arts parallèles de continuer à s'exprimer et d'envoyer des messages, d'exprimer des idées reçues par leur population. Et puis ensuite, c'est d'échanger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu nous faire croire qu'on était de doux illuminés, ultra-protectionnistes, que la diversité culturelle, c'est le repli sur soi, c'était de fermer les frontières, d'arrêter les échanges, alors que c'est précisément le contraire. Nous, on dit, il faut échanger, il faut que les œuvres circulent. Sauf que, contrairement à ce que disent les Américains, la culture, ce n'est pas des biens ou des services qui peuvent être considérés comme n'importe quels autres. Elle doit être protégée, elle doit obéir à des règles, à des quotas. Et quotas, ce n'est pas un gros mot pour moi, parce qu'en l'occurrence, quand il s'agit de culture et quand on voit l'agressivité du marketing de certaines grosses multinationales, c'est normal qu'on protège des œuvres un peu plus fragiles.
Ce sont les damnés immortels.
Vampires et lycans.
Lune née privilégiée.
Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat.
Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir.
Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi ?
À Noël prochain, la plus fabuleuse histoire jamais contée prendra vie.
Le monde n'est qu'un immense parc de loisirs. L'aventure s'achète sur catalogue. Programmée, formatée, le moindre danger a été systématiquement évacué. Au hasard d'une rencontre, j'ai pris une décision. Je me tire. Je mets les voiles. Je pars à la recherche d'autre chose.
C'est contre cette idée que la culture est un bien marchandable comme un autre que vous avez fondé la coalition marocaine pour la diversité culturelle.
Oui, dans un contexte un peu particulier qu'il faut peut-être rappeler, c'était à l'époque la négociation de l'accord bilatéral de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. Imaginez, c'est quand même un peu David contre Goliath. Et là, en l'occurrence, il y avait aussi des pressions politiques très très fortes pour que, contrairement à l'accord négocié avec l'Union européenne, l'accord américain avec le Maroc devait faire en sorte que la culture soit considérée absolument comme le reste. Donc il y avait quand même un grand danger. Et à l'époque, oui, on s'est regroupé avec des amis des industries culturelles, du théâtre, du cinéma, du livre et autres. Et on a fondé cette coalition. Alors, ça n'a pas changé la face de la négociation de l'accord, mais quand même, ça a eu une certaine influence et on a réussi à protéger l'essentiel.
Alors, on peut rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui se passe au Maroc au niveau de la diversité culturelle et qu'est-ce que vous avez su préserver ?
On a su préserver l'accès à tous les systèmes d'aide, tous les leviers de financement, par exemple, qui étaient en danger, parce qu'en l'occurrence, il y en a. Et le Maroc, pour ça, il fait un peu exception par rapport à d'autres pays du Sud, parce que le cinéma, par exemple, est très bien financé, le théâtre est subventionné, la littérature également. Enfin voilà, ça par exemple pour les Américains, c'était pas possible que ça tienne, ou en tout cas que ça reste réservé aux films marocains uniquement. Par contre, là où on a échoué, il faut bien le dire, c'est au niveau des quotas. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à imposer des quotas, que ce soit au cinéma ou que ce soit dans les salles ou que ce soit à la télévision, pour les œuvres locales. Ça, ils n'ont pas voulu en entendre parler et malheureusement, le gouvernement marocain a cédé là-dessus. Malgré tout, il faut quand même être honnête. Aujourd'hui, il y a une production cinématographique, une production artistique en général, musicale notamment au niveau de la chanson, au Maroc, qui est quasi exceptionnel dans le monde arabo-musulman en général. Et là, je ne vous parle même pas de l'Afrique, parce que là-bas, c'est malheureusement, il y a certains pays qui produisent quasiment plus rien. Ça il faut s'en réjouir. Après, il y a les conditions d'accès à la culture dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est encore un autre problème. Et quand on voit le réseau de salles de cinéma aujourd'hui dans certains pays, en Algérie, il doit y avoir 5-6 salles, en Tunisie, il y en a une douzaine, au Maroc, on était à 350 salles il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, on est à 50 salles. Vous allez dire que c'est mieux que nos voisins, mais enfin, imaginez comparer ça par rapport à la France, où il y a 5000 écrans. On ne peut pas arriver à avoir une vraie politique de diversité culturelle dans un pays où il y a quelques multiplexes et puis d'autres salles qui sont en train de mourir. Parce que les multiplexes font absolument ce qu'ils veulent et puis parce qu'il n'y a aucune place pour la diversité, justement. Donc ça, c'est un vrai problème sur lequel il est important d'agir.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces 50 écrans marocains, finalement ?
On peut voir d'abord du cinéma indien pour les catégories sociales défavorisées. On peut voir du cinéma américain, beaucoup, pour les catégories un peu plus aisées. Somewhere in space. This may all be happening right now. Et puis on peut voir du cinéma égyptien un petit peu quand il y en a, et marocain, parce que ce qui est bien par contre, c'est que quand un film marocain sort, en général il crée l'événement, et je crois que sur les 10 films qui ont fait le plus de box-office l'année dernière, il y avait 3 ou 4 films marocains.
Regarde, c'est là le Maroc.
Bah alors, t'es française, africaine, marocaine ou arabe?
Ça prouve quand même qu'il y a une demande de la part du public de s'identifier aux images qui sont faites par leurs créateurs locaux. Et c'est pour ça que je travaille depuis quelques années maintenant avec un ami distributeur exploitant sur l'idée d'un un réseau de salles dans les quartiers populaires, dans le monde rural, qui va permettre, qui seront d'abord tout en numérique, et qui vont permettre au public qui n'a pas les moyens ni de payer 40 ou 50 dirhams pour aller dans un multiplex dans le centre-ville, ni de se déplacer justement en centre-ville. On parlait des femmes de la paillette qui sont venues tout à l'heure voir Alizawa. Ben voilà, ça c'est exceptionnel parce qu'elle festival, mais sinon en temps normal, elle ne peut pas se le permettre, ni en termes de coûts, ni en termes de temps. Ben, on va aller, nous, vers ces populations-là, et on va leur permettre, avec un ticket d'entrée très très bas, de voir des films de la diversité, et en plus de les voir, ce qui est un problème d'analphabétisme également, dans leur dialecte, c'est-à-dire sous-titrer quand on n'a pas les moyens de les doubler, sinon même doubler, parce que vous savez qu'au Maroc, il y a plusieurs dialectes qui se parlent, il y a l'arabe dialectal, mais il y a aussi les dialectes berbères. Et cette proximité vers le public, elle est importante.
Et donc ça, c'est voulu, enfin comme une entreprise qui pourrait vous rapporter de l'argent, parce que enfin il est aussi question de ça. Quand on distribue un film, on n'aime pas le distribuer à perte. Donc vous espérez en allant vers ces gens-là, enfin exclus, en bradant un peu les prix, enfin en faisant une petite remise, enfin vraiment susciter l'engouement.
C'est pas de la distribution, c'est de l'exploitation, c'est des salles de cinéma donc. Et ensuite, c'est pas à but lucratif, c'est-à-dire que c'est fait dans le cadre d'une association qui s'appelle Image pour tous, qui est une association à but non lucratif. Donc l'idée, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, c'est que l'association évidemment fasse des rentrées, parce que quand on construit des salles, même si on a des subventions publiques et qu'on paye des gens pour entretenir ces salles, des projectionnistes, etc., etc., il faut avoir les moyens de les payer. Et puis surtout, il faut pouvoir acheter les films et il faut pouvoir les doubler. Ça, c'est très, très important. Donc, ce qu'on souhaite, et on ne sait pas si ça va être possible ou pas, mais c'est d'atteindre un point d'équilibre où l'association ne perd pas d'argent et peut offrir ce type de film-là à ce public. Après, si ça fonctionne, et ben tant mieux. On fera d'autres salles ailleurs, dans d'autres coins du Maroc, tout simplement.
Alors en France, et vous l'avez rappelé aussi au Maroc, il y a l'équivalent du CNC. Je me suis laissé dire par le réalisateur de Casanegra, donc Noureddine Lakhmari, que le roi aimait quand même le cinéma, non seulement le cinéma, mais la culture, et pensait que c'était un vecteur pour faire changer les mentalités, la société civile. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Parce qu'il faut quand même une volonté, enfin, peut-être du pouvoir aussi, enfin, pour favoriser cette diversité.
Oui, c'est sûr que le roi aime les arts, le cinéma en particulier. Bah, il l'a prouvé ne serait-ce qu'en créant le Festival de Marrakech, qui est une initiative qu'il a mise en place très peu de temps après son accession au trône. Et il faut aussi reconnaître que depuis qu'il est roi, il y a une dizaine d'années maintenant, les choses ont quand même beaucoup évolué au niveau des arts et de la culture en général. Il y a eu beaucoup d'incitations. Je parlais tout à l'heure des subventions du centre cinématographique marocain. Il y a 10 ans, on était peut-être à 1,5 million ou 2 millions d'euros par an. On est aujourd'hui à 7 millions d'euros par an. Donc ça aussi, c'est sous son impulsion. Donc c'est vrai qu'il y a le Maroc, la jeunesse marocaine qui crée, qui produit des œuvres artistiques, a aujourd'hui plus les moyens de s'exprimer et puis surtout de représenter ses œuvres, parce qu'à l'époque, il devait y avoir 5-6 festivals par an au Maroc, toutes catégories confondues dans les arts. Aujourd'hui, il doit y en avoir une centaine. Donc ça a explosé aussi au niveau des lieux qui permettent la représentation de manifestations culturelles.
Alors Nabil Ayouch, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, donc vous êtes membre de cette coalition marocaine pour la diversité culturelle. Mais avant tout, c'est aux réalisateurs et aux producteurs que je parle. Voir du Nabil Ayouch en France, est-ce que c'est facile pour vous, par exemple ? Parce que là, vous êtes présent à un festival qui déjà s'ouvre aux productions de la Méditerranée, qui vous aime beaucoup. Les spectateurs viennent voir vos films, mais hors festival, comment ça se passe ?
Écoutez, je dois dire que là-dessus, je suis plutôt bien loti, peut-être par rapport à d'autres, donc je ne vais pas me plaindre, parce que tous mes films ont été distribués en France. Alors, avec une certaine progression, au début, Mektoub était sorti, je crois, sur une quinzaine de copies, Alizawa sur une quarantaine de copies, mais bien distribué par Océan, qui a fait un bon travail, le distributeur. Bon, mon troisième film est un film de collection pour Arte, donc il est passé à la télévision. Mais Lola, par exemple, le dernier Whatever Lola Wants, est sorti sur une centaine de copies. Donc oui, il a été largement vu. En même temps, c'est pas un film du Sud, puisqu'il a été financé par Pathé, dans le cadre d'une production internationale. Donc c'est un petit peu différent comme problématique. Maintenant, si on doit parler des films du Sud en général, c'est vrai que l'accès aux salles est beaucoup plus compliqué. Mais vous savez, aujourd'hui, l'accès aux salles, il est plus compliqué pour tous les films, y compris les films français. À Paris, il y a une vingtaine de films qui sortent chaque semaine, et les écrans augmentent pas pour autant. Le nombre d'écrans n'augmente pas pour autant. Donc la problématique de l'écran l'exploitation, de la distribution, de la vie d'un film, de la chronologie des médias même, qui est en train d'être bouleversée par certains qui disent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue à d'abord passer au cinéma, attendre que le film se plante parce que la salle est structurellement déficitaire, et puis parce qu'avec tous les films qu'il y a sur le marché, ben, un film qui réussit en salle, c'est un film sur 100, pour attendre ensuite des mois avant qu'il sorte en vidéo, puis des mois avant qu'il passe à la télé, et machin, etc., etc. Donc il y a une vraie réflexion, à mon avis, à mener là-dessus, d'autant plus que l'accélérateur, en ce moment, c'est le piratage, et notamment le peer-to-peer, un piratage sur Internet, qui permet de télécharger les films quasiment en temps réel aujourd'hui, et de les visionner en tout cas en temps réel. Donc je pense qu'il faut commencer à se poser des vraies questions, et encore plus pour des œuvres un petit peu fragiles.
Eh bien, ce sera ma dernière question, qui sera peut-être un peu provocante. Donc vous êtes membre de cette association qui lutte contre le piratage. Ouais. Alors, est-ce que le fameux piratage qui propose sur Internet, finalement, de mettre en connexion tout un tas de personnes, de voir un film japonais ou coréen ou argentin, et d'en avoir peut-être les sous-titres parce que quelqu'un va se mettre à sous-titrer, est-ce que ça, c'est pas le partage culturel ?
Oui, si la fabrication de ces œuvres était gratuite, oui, ce serait formidable, parce qu'effectivement, on dirait, ben tiens, on fait un film qui coûte rien, donc on va pas le vendre, à la limite, on dépense rien et puis on gagne pas d'argent avec. Le problème, c'est qu'un film, ça coûte beaucoup d'argent à faire. Un album de musique, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et quand on voit que les ventes de CD, de DVD s'écroulent complètement parce que les gens aujourd'hui ont changé de mode de consommation et sont habitués à accéder à cette forme de culture gratuitement à travers Internet, on peut quand même aussi aller un petit peu plus loin de temps en temps et se dire d'accord, mais enfin bon, est-ce que ça encourage pas la médiocrité, par exemple? Parce que quand on n'a plus de moyens pour créer, on continue parce qu'on a la passion pour ça et parce que on sait tout ce qu'on sait faire, mais on continue avec beaucoup moins d'argent. Donc le prochain film, les producteurs vont dire oui, écoute, les recettes salles sont pas terribles, les recettes DVD, il n'y en a quasiment plus. On a quelques ventes télé, quelques ventes internationales, mais en même temps, c'est la crise en ce moment à l'étranger, donc il ne faut plus compter sur les préventes internationales. Et ça, c'est pas possible, parce que Internet a complètement bouleversé la donne. Mais au-delà de cette tentation et de ce discours un petit peu pluraliste, qui est de dire « Oui, mais quand même, l'accès à la culture, ça doit être bien pour tout le monde, machin », il faut se rappeler que, d'abord, ça coûte cher de créer, aujourd'hui, dans certains arts, en tout cas, peut-être pas la peinture et la littérature, et encore, et qu'en même temps, il y a 20 ou 30 ans, la culture, elle était tout aussi populaire, elle était tout aussi répandue. Les films se voyaient peut-être même plus d'entrées en salle qu'aujourd'hui. La musique s'écoutait et en même temps, les gens acceptaient de payer pour ça. Ils acceptaient de payer parce qu'ils avaient compris que ça coûte cher de faire un album ou un film et qu'aujourd'hui, Internet a changé les mentalités. Mais c'est un raisonnement qui est très à court terme. Il faut être tout à fait clair. Il y a un piratage aujourd'hui, toutes les formes de piratage est en train de tuer la culture, est en train de tuer n'importe quelle forme de culture. Ou alors, l'idée, c'est de dire la culture est subventionnée à 100% par l'État, à perte. Et là, effectivement, on va la jeter sur Internet gratuitement d'emblée. Mais tous les artistes qui disent « Oui, c'est pas grave, c'est mon album », au contraire, qui sont pour le piratage, mais ils réalisent pas que pendant ce temps, leur maison de disques, leur label est en train de se cracher et qu'ils peuvent dire ça aujourd'hui, mais demain, quand ils vont aller les voir pour leur demander de produire un nouvel album, ils leur diront « Maintenant, t'es gentil, mon coco, mais il fallait réfléchir à deux fois ».
On précise aussi qu'au Maroc, on peut avoir un de vos films... dans la rue directement, qu'il n'y a pas forcément de la répression, c'est assez accessible, alors qu'en France, c'est pas le cas.
Non, c'est pour ça que j'ai créé cette association, parce qu'au Maroc, c'est encore plus dramatique. C'est-à-dire que vous êtes en Europe dans une problématique de piratage virtuel sur Internet qui est terrible, mais en même temps, il y a des lois comme la loi Hadopi qui est en discussion, tout le monde n'est pas d'ailleurs forcément d'accord là-dessus, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises. Elle est votée. Bon. Oui, j'ai appris qu'il a été voté, mais enfin, ce qui compte maintenant, c'est la manière dont elle va être appliquée. Mais au Maroc, c'est encore pire parce qu'il y a une hypocrisie même de la part de certains hommes politiques qui continuent à dire que le piratage, ça fait vivre des familles, une dimension sociale dans le piratage. Moi, je ne peux plus entendre ce discours-là. C'est un discours que j'exècre parce que ça tue aussi des familles. Et il y a des artistes qui crèvent dans la dèche parce qu'ils n'ont jamais été capables de vivre de leur art. Des scénaristes qui n'ont jamais eu droit d'auteur, des comédiens qui touchent pas des cachets de misère parce que les rentrées ne permettent pas de les payer plus que ça, etc., etc. Donc je pense qu'à un moment, il faut un peu arrêter d'avoir ce type de discours complètement démago, populiste et hypocrite. Et puis, il faut se poser les vraies questions. Et au Maroc, en effet, aujourd'hui, on peut malheureusement trouver des films et des CD en vente libre au coin de chaque rue, parce que c'est devenu un business juteux pour certaines mafias qui gagnent une fortune avec ça. Et voilà, il n'y a aucune redistribution, aucune transparence dans la remontée de recettes. Et l'auteur, le créateur, il est où dans tout ça? Il a complètement disparu de la chaîne. Il y a des gens qui gagnent des milliards avec le piratage.
Internet est un sixième continent virtuel qui n'est pas encore régulé. On peut tout de même remarquer que la France a tenté de légiférer non sans mal et a voté une loi Hadopi censée lutter contre le piratage. La France est sans doute le pays qui a pris le plus de mesures visant à limiter l'hégémonie américaine par un soutien à la production hexagonale ou la coproduction avec des pays tiers, un système de quotas et un soutien aux salles d'arrêt d'essai. Ce sont dans ces salles que sont projetés les films de Nabil Ayouch.
À chat perché, l'ennemi joue son jeu.